image quelle image il renvoie, où sont les hommes, où est l'exemplarité, où est la classe, où est ce qui nous dépasse, et où le romantisme tout, enfin la France, merde, moi je suis,
c'est nul. Tu trouves l'attitude de Kylian de classe de ne pas avoir remercié les deux,
non c'était pas mieux,
il lui a offert combien,
c'était pas
combien, il lui a filé pendant 7 ans,
et ben ils avaient l'occasion pour le coup,
c'est pareil, c'est ni classe ni là,
de sortir par le haut,
et dire ok tu nous as méprisé, ok on t'a fait des ponts d'or tout le temps, ok, et ben regarde, on est le Paris Saint-Germain, on a la classe, on va quand même te fêter, parce que
il est vexé comme un poule.
Moi je cautionne pas ce genre d'attitude, il est vexé franchement, bah ouais super.
On oublie. Et puis juste pour rajouter quand même que Kylian Mbappé a passé 7 ans au Paris Saint-Germain, il n'a pas passé un an et demi, c'est pas pareil comme un voleur.
On a complètement zappé ce qu'a fait Mbappé pour le Paris Saint-Germain, ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé. Pourquoi le stade a été plein aussi souvent? Pourquoi il y a eu tant de shows? Pourquoi il y a eu autant de spectacles? Mais t'oublies, là c'est 9 mois, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Le PSG aujourd'hui c'est Kylian Mbappé, et l'institution, là, les grands présidents, tout Nasser qu'il est, on nous parle, l'institution, elle est où l'institution? Les gens qui vont au stade veulent faire la fête à Kylian Mbappé. Ce soir, ils vont vouloir, les supporters vont faire un tifo.
Les supporters,
ils s'en sortent tout petits, Nasser, de ça. Parce que c'est une vengeance personnelle,
ouais,
c'est tout.
C'est
juste, monsieur est vexé, donc on fera rien. Mais le reste, Kylian Mbappé, c'est cette année, c'est des records. C'est le PSG. Moi, je suis d'accord avec Jérôme Rotten qui dit le PSG n'a jamais eu un aussi grand joueur sur le terrain que Kylian Mbappé. C'est le plus grand joueur que le PSG ait eu sur sa pelouse. Alors peut-être que depuis 9 mois, il est moins bon. Mais pourquoi il est moins bon? C'est certainement de sa faute aussi. Je suis d'accord.
C'est le plus grand joueur en termes de attends, t'as quand même eu un certain Messi qui a
joué
sous le maillot du Paris Saint-Germain.
Messi a été exceptionnel.
Ça a été le plus grand joueur.
Je te parle performant, Christophe.
Performant, oui.
Bien sûr que oui. Bien sûr,
pas mal
quand
même.
Et en termes de jurisprudence, d'image que tu renvoies au prochain joueur que tu vas recruter ou que tu as déjà, c'est de dire ah ouais, on est capable de faire ça.
Mais je suis assez d'accord avec toi parce que déjà il y avait le coup de canif. On peut penser ce qu'on veut de Neymar et de Messi, et évidemment c'est vrai que Messi ça n'a pas été une franche réussite, mais Neymar, il y a eu des moments exceptionnels avec lui, et au final tu l'accueilles comme une grande star, mais comme Messi et comme Mbappé, et tu les bazardes, ouais, en les laissant un peu à la vindicte populaire.
C'est ça.
Non mais qu'est-ce que ça dit, et Sarah et Christophe,
enfin,
c'est pas forcément petit, qu'est-ce que ça dit d'une institution en fait?
Il n'y a pas d'institution,
c'est regrettable, mais si je me place du côté du PSG et qui, en tout cas, ce qu'ils essayent de faire bouger, les lignes qu'ils essayent de faire bouger, et notamment Luis Enrique a bien pris le pli, c'est qu'il n'y a pas un joueur au-dessus de l'institution du PSG. Vous en souvenez?
Il n'y a pas un joueur au-dessus du président et des Qataris.
Non, mais tu te souviens du nombre de débats qu'on a eu en disant ouais, le PSG comparé au Barça, comparé au Real, il n'y a pas d'institution, l'institution elle n'est jamais au-dessus des joueurs, les joueurs font ce qu'ils veulent. Et bien, cet acte-là, il est totalement maladroit, totalement regrettable, mais il s'inscrit quand même sur une position que le club essaie d'avoir. C'est-à-dire, ok, on a eu les meilleurs joueurs du monde, on n'a pas été foutu de gagner une Ligue des Champions. On va changer oui, de braquet, et on va le faire différemment. Et Luis Enrique n'a fait que poser ces valeurs-là cette année, au point où Mbappé était
fêter,
mal dans ses pompes.
Le fait de fêter ce soir, le lien avec le fait de fêter ce soir le plus grand joueur que tu as eu sur ta pelouse, quand tu es un très grand club. Tu remercies
le champion de la NBA. Tu te caches derrière ton 12e titre.
Ouais, c'est trop facile.
Mais c'est facile.
Le timing,
c'est facile.
Moi, je trouve que justement, pour élever le niveau, excuse-moi Marie, pour élever le niveau, pour que le PSG arrive à être un jour, ça n'arrivera jamais, pour moi, à la hauteur de ces clubs si respectés que sont le Real, que sont le Barça,
avec cette image,
il faut commencer par fêter tes champions, respecter le joueur qu'il a été. C'est cette année derrière.
Et qui a été au bout de son contrat.
Mais évidemment, elle est où la gestion là-dedans de laisser partir ton mec libre? Déjà, là, tu te dis, il y a un problème.
Et qui part?
Fait-on-le.
Du Paris Saint-Germain, ok, mais qui part aussi de la Ligue 1, qui part du championnat français. Ils avaient cette responsabilité-là, le PSG, de l'accompagner, enfin, de lui dire au revoir de belle manière parce qu'on le perd tous, en fait, qu'on soit PSG ou pas. Les Français, on le perd. Et donc, ça, il faut dézoomer, quoi.
Ils parlent pas qu'à leur peuple.
Ils avaient une vraie responsabilité, et là ils ont encore trouvé le moyen de bien se faire défoncer,
clairement,
et de bien se faire détester, quoi.
Clairement, ils vont s'adresser à leur public, alors que celui dans les tribunes veut fêter Kylian.
Mais ils vont le faire.
Ce soir, il y a le multi.
Oui, mais bah, c'est aussi
le passionné de football,
de compenser
l'absence du match de Kylian. Moi, le 12e titre du PSG, j'en ai rien à foutre. Je vais pas regarder les images du spectacle. Ils peuvent mettre les trompettes, je m'en fous. Par contre, s'il y avait eu un bel hommage pour Kylian Mbappé, j'aurais regardé. Parce que le joueur m'intéresse plus que le 12e titre qui est finalement logique.
On va être surpris.
Il se passe de ça. Je pense qu'on s'apercevra plus tard, encore une fois, trop tard certainement, que sur le terrain, on avait une espèce de génie qu'on a laissé partir comme un joueur lambda. Ça n'est pas un joueur.
Non, mais ce qui est assez fou, c'est
partir.
Non, mais déjà avec.
Prolongé deux ans. Non, mais je veux dire dans le.
Il est resté 9 ans en Ligue 1.
Fêter, Sarah. Ouais.
Comme dit Marie, il y a une responsabilité. Il est resté 9 ans en Ligue 1 pour un joueur de cette trempe. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé. C'est pas un joueur comme je le disais qui est resté 18 mois.
S'il prolonge il y a 2 ans, parce qu'on l'accuse de beaucoup de choses et c'est un autre débat. Mais s'il prolonge il y a 2 ans, c'est ok. Il y a tout ce qui va autour. Ok, je les vois arriver, les gens ont le pognon, etc. Ok. Mais il peut aussi se barrer.
Et si
il le fait pour l'institution Paris Saint-Germain parce que c'est son club de cœur. C'est là où on se dit peut-être qu'on aurait rien que pour ça pu lui fêter ce soir. Parce que s'il y a 2 ans, il veut se barrer, il se barre. Hein.
Le pire dans tout ça, c'est que s'il part il y a 2 ans, ça se passe très bien. Ah oui, je pense qu'il y a une vraie célébration. Et
là, parce que depuis 9 mois, il a un coach qui le fait plus jouer, qui soi-disant le préserve.
Un championnat.
Non, la rupture, elle est avant que Luis Enrique arrive. La rupture, c'est le bras de fer.
Quand il l'a mis dans l'offre, quand Masser l'a mis dans l'offre cet été.
Et les fameuses primes.
Et les fameuses primes.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est pas encore réglé, ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens du PSG.
Je pense qu'il est fâché.
Masser, c'est
principalement pour la prime.
Mais Sarah dit qu'on verra ce soir parce que les supporters pourraient faire le job.
Renverser la fête.
Oui, mais sauf que le Paris Saint-Germain a la main sur les copes de supporters, au moins sur le plus gros d'entre eux, et que c'est bien possible.
Non, mais il y a un tifo qui est préparé.
Ouais, mais pas tous. Hein.
Moi, je pense qu'on va être surpris. On va être surpris. Je pense que les spectateurs aujourd'hui au parc vont préparer quelque chose, d'autant plus qu'ils savent maintenant qu'il n'y aura pas de cérémonie après. Je pense qu'il va y avoir des chants, il va y avoir des tifos, je pense qu'il va y avoir un bruit extraordinaire quand il va rentrer
peut-être
sur le terrain.
Du coup, ça va donner l'inverse de ce qu'il voulait.
Vous êtes persuadé que Kylian est si populaire que ça auprès de tous les supporters.
Il les a mis en colère. Il les a mis en colère.
Moi, complètement.
Il les a mis en colère ces 2-3 derniers mois parce que qu'un supporter, il voit son joueur. Comme il était un peu errant, etc.
C'est vraiment partagé.
Il aurait voulu que
c'est du 50-50.
Les supporters parisiens auraient voulu que Kylian porte à lui seul l'équipe et surperforme, alors qu'il n'est pas dans la forme de sa vie. On le sait, et ça va pas changer avec l'équipe de France et quoi qu'il arrive derrière. Par contre, je pense que quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, il arrive le dernier match. On a une légende sur le terrain, un immense joueur, un joueur qui est tout proche du Ballon d'Or, que s'il n'était pas dans ce club, il l'aurait peut-être déjà. Je pense que ça, ils vont s'en rappeler, ils vont lui faire la fête. Ils ont envie de lui faire la fête. Ils étaient un peu, fâchés avec l'amoureuse ces derniers temps, mais quand même, c'est son départ. J'espère que les supporters du Paris Saint-Germain vont faire un beau contre-pied à tout ce qui est en train de se préparer et fêter tout autant le départ dès qu'il a fait que le titre parce que il le mérite et parce que c'est elle est là la fête ce soir. 12e titre, ouais.
Okay. Mais on a tous en tête les célébrations, parce qu'il y a eu de grands joueurs depuis ces dernières années, alors depuis de nombreuses années, mais ça s'est accumulé ces dernières années, qui sont passés au Paris Saint-Germain. Et il y a des exemples et des contre-exemples. Je le disais, Neymar, Messi, parti en catimini, mais il y a eu Zlatan.
Le comportement de Messi, Neymar, c'est pas le même. Qui a Mbappé, on lui reproche des choses. Ces deux derniers mois, il a quand même beaucoup donné.
Bien sûr, mais je suis pas en train de comparer les deux. Je suis en train de comparer les célébrations de grandes stars. Zlatan Ibrahimovic, extrêmement populaire, mais on peut pas dire il se situait quand même au-dessus du club.
Ouais.
Bah lui, il a eu quand même une
droit le micro, il a dit au revoir.
À une fin de rockstar.
Ce soir, s'il y a pas ça, c'est une honte complète pour le club. S'il y a pas minimum Kylian un mot avec le micro dans les haut-parleurs du stade, mais c'est une honte pas possible.
Le Paris Saint-Germain en fait ses joueurs quand le Paris Saint-Germain a décidé qu'il était temps pour ses joueurs de quitter le club. Ça a été le cas de Zlatan, ça a été le cas d'autres grandes légendes du Paris Saint-Germain.
On va me sauter à la gorge.
Quand le PSG décide, ok, vous pouvez partir, on vous fait la fête. Ouais, mais quand ils ont décidé qu'il fallait pas partir,
mais ça fait 2 ans.
Mais c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Qataris qu'un joueur dise non et qu'un joueur parte alors que les dirigeants ne veulent pas
l'année dernière, ils ont fait une belle fête. Voilà,
il y a le point de vue financier. C'est la première fois qu'un joueur, un top joueur, part sans ne pouvoir ramener aucun centime dans les caisses du club. Tu vois, mais ce sont des businessmen. Pas des amoureux du foot, on le sait tous. C'est des businessmen avec un ego surdimensionné qui sont assis le cul sur un puits de pétrole. Mais rendez-vous compte, ils se sont fait humilier. C'est l'humiliation suprême. Il n'aura pas le micro.
Ça fait 2-3 en peu de temps, ça commence à faire beaucoup.
Franck nous appelle au 32-16, il veut participer à notre débat. Bonjour Franck.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
Très bien, supporter du Paris Saint-Germain,
oui.
Franck.
Oui, je vais
jouer. Tu seras au Parc des Princes ce soir ou pas?
Non, j'y serai pas. Je suis en Bretagne, donc j'ai déménagé il y a deux ans.
Voilà.
Je suis le club. Voilà, donc ça me coûte moins cher un abonnement à Lorient pour voir Paris une fois dans l'année plutôt que de prendre une place sur le match.
C'est sûr.
Par contre, ça sera la dernière fois. Hein, malheureusement.
Franck, dis-nous, est-ce que c'est petit, pas de célébration particulière pour Mbappé ce soir?
Bah déjà, en fait, je vais essayer, parce que je vais pas vous tenir la discussion pendant deux heures. Il y aura tellement de choses à dire. Ce club est très compliqué. Il n'y a jamais rien de simple. Paris n'a déjà, on a un club, on n'a jamais su soigner la sortie de nos joueurs, que ça soit Thiago Silva, Cavani, qui méritait, je pense, quelque chose de spécial aussi. Par contre, comme vous disiez, on a eu une sortie de Zlatan, qui à l'époque avait tapé tous les records, mais qui dans la tête n'était pas. Je pense qu'en fait, pour un club et pour un joueur, avant d'être un grand club, je pense qu'il faut être une grande institution. Et le problème, c'est que Paris, de ce côté-là, se cherche depuis des années. Je pense que le cas Mbappé, ça fait déjà deux ans que c'est mort. Je pense que ça fait déjà deux ans que ça a été cassé au niveau de ce transfert au Real qui n'a pas été fait à 180 millions fin août. Je pense que depuis ce jour-là, il y a eu quelque chose de cassé. Je pense que au-delà d'un super joueur, moi j'adore le joueur, il nous a fait passer des moments inoubliables, c'est voilà. Mais pour être un grand joueur, et je parle surtout pour être une légende dans un club, c'est important. Il faut bien dissocier les deux entre grand joueur et une légende. Pour être une légende, il faut passer des émotions aux gens. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'affect. Il faut qu'il y ait un partage qui se fasse entre les supporters, entre le joueur. Et ça, Mbappé, tout grand joueur qu'il est, je pense que ça s'est pas fait avec les supporters. Je pense qu'il faut pas oublier toutes les déclarations qu'il a eues en l'espace de 5 ans, ce joueur. Malgré, attention, encore une fois, je suis pas en train de remettre en question le joueur. Il nous a fait passer des caps. Et effectivement, l'année dernière, avec Messi et Neymar, heureusement qu'il était là, parce que sinon on serait jamais arrivé à certains points où on est arrivé. C'est vrai. Mais moi, je parle de l'affect et l'émotion. Et je pense que tout ce qui se passe autour du club et le fait que le club réagisse comme ça par rapport à lui, je pense que c'est dû à ça. Alors, le club est fautif. Attention, le club est fautif. Le joueur, je pense, est fautif aussi. Des deux côtés, il y a des fautifs.
Et je pense que ça. Mais pas le fêter.
Franck, je crois que.
Non, mais moi, je pense que Franck résume complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais
ça va jamais. En fait,
vous êtes des pros Mbappé, vous êtes dans des clubs,
ça va jamais.
Vous idolâtrez Mbappé, mais je pense que les supporters du PSG, à l'image de Franck, ne l'idolâtrent pas comme ça et qu'il ne part pas comme une légende. On en a parlé hier. Il part comme un très grand joueur, mais pas comme une légende. Pas un mec qui a donné un frisson incroyable à ce club, qui a offert des grands matchs au PSG, à l'image de ces deux matchs en demi-finale.
Il y a eu un triplé au Bernabéu, je ne vais pas faire tous ces matchs, mais j'en conclurai autre chose.
C'est une légende de l'équipe de France, c'est pas une légende du PSG.
C'est une légende du PSG parce qu'il a porté ce club. Mais ça conclut ce que je pense, c'est que quoi qu'il arrive, je pense malheureusement dans ce club, je le disais hors antenne à Marie, tu le mets à l'OM, mais la ville elle est en feu quand il s'en va. C'est un peuple de football. Aujourd'hui, on attend quoi de plus?
D'ailleurs,
qu'un joueur comme ça.
D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai revu hier Jean-Pierre Papin qui prenait le micro et qui annonce à tout le monde qu'il part au Milan AC. Et quand les gens entendent Milan AC, tout le monde applaudit. Alors, c'était une autre époque, évidemment, mais tout le monde applaudit en disant waouh, super, il va au grand Milan, Jean-Pierre Papin et tout ça. C'est absolument incroyable. Cette vidéo, allez la voir sur les réseaux sociaux, c'est dingue parce qu'on n'imagine pas Kylian Mbappé aujourd'hui dire bon, je pars au Real Madrid.
Rappelez-vous de la bronca qu'il a reçu au Vélodrome, il est revenu avec Milan quand même.
Quand ces joueurs-là partent de leur club, ils méritent à minima qu'on leur donne hommage, qu'on leur rende hommage. On s'en apercevra plus tard, malheureusement, encore une fois pour Paris, que ce mec-là était irremplaçable.
RMC, les grandes gueules du sport.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ben ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff RMC, la punchline GG.
C'est la première fois que je remonte sur le vélo et que je sors. Et ça fait vraiment du bien d'être enfin capable de rouler, comme si tout était normal à nouveau. Enfin, pouvoir rouler sur la route. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de passer aux étapes suivantes. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais ça va de mieux en mieux. Bien sûr, j'espère être là pour le départ du Tour de France. Je ferai tout ce que je pourrai pour y arriver en pleine forme.
Jonas Vingegaard, donc une vidéo mise en ligne par son équipe. Et Vingegaard est-il en train de bluffer? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Jérôme Pinault?
Oh que oui.
Sarah Pitkowski?
Naïvement, non.
Naïvement, non. Ah, tu crois tout ce qu'on te dit, hein. C'est beau ça, Sarah.
Je crois le diagnostic du médecin.
Ok.
La liste était longue.
Marie Martineau?
Non, je crois pas qu'il bluffe.
Ok.
Je crois pas qu'il bluffe parce que je pense qu'il y croit. Je pense que lui, il croit. Lui, il croit, il pense être au départ du Tour de France.
Tu vas comprendre mon oui. Hein,
hein?
Tu vas comprendre mon oui dans quelques instants.
Je pense qu'il se trompe et qu'il ne sera pas en forme et qu'il ne sera pas performant. Ça, c'est une évidence parce que tu te remets pas comme ça si rapidement de blessures aussi graves. Hein. On rappelle, les poumons, c'est quand même le moteur d'un coureur cycliste. Il ne peut pas respirer dans les cols. C'est quand même très compliqué. Il a été touché un peu partout. Déjà, de le voir remonter sur un vélo, c'est un miracle. Maintenant, être en forme dans 7 semaines au départ du Tour, je ne pense pas une seconde qu'il le soit. Mais je suis persuadé que pour lui, c'est un moteur de se dire que je serai peut-être au départ du
la
tour.
La méthode Coué,
peut-être... Ouais, c'est un peu la méthode.
Non, mais dans ce qu'il dit, il dit pas qu'il va être performant au tour. Il dit pas qu'il va gagner le tour. Il dit j'espère en être et être performant. Et là, il dit surtout, je ne suis pas à 100% physiquement.
Et Vingegaard, il va pas au tour s'il n'est pas sûr de pouvoir faire podium. C'est sûr et certain, il va pas aller pour faire le Tour de France pour faire 3 semaines dans le peloton.
Tu sais ce qui lui est arrivé, c'est hyper impactant psychologiquement et physiquement.
Il lui est arrivé quoi? On a quoi comme image? On sait ce qu'il a eu et d'où.
On a cru qu'il était mort quand même.
Où a-t-il été soigné? On a surtout su quelques semaines passées que ses parents étaient sans nouvelles. Que sa copine avait à peine le droit de le voir. 2 semaines après, il sort de l'hôpital. 3 semaines après, il est sur le vélo. C'est que de la com. Ils nous ont pipoté une fois de plus.
Donc toi, tu remets en cause le diagnostic. Tu penses qu'il n'était pas aussi blessé qu'il ne l'aurait dit?
Visma Elise Bike travaille avec un hôpital.
Tu vas encore te faire des mots, mon ami.
Non, mais c'est intéressant. Dis-nous ce qu'on pense.
Visma Elise Bike est une très grande équipe, très structurée, qui, comme certaines équipes que je connais bien, sont forcément associés dans leur travail au quotidien avec un centre hospitalier. C'est sûr et certain. Le mec, il est tombé au Pays Basque, il a un pneumothorax, donc transportable, hein. On est d'accord. Hein. Il est resté 3 semaines à l'hôpital au Pays Basque. Il n'a pas rejoint l'hôpital d'Eindhoven où là, tous les spécialistes auraient suivi le meilleur coureur du monde actuel. C'est de la com, ils se foutent de notre gueule. Il est sorti de l'hôpital, il est déjà prêt, et je peux vous dire une chose, c'est qu'il va être prêt pour le Tour. Il va être prêt pour le Tour et il doit se friser les moustaches de voir Tadej Pogacar attaquer sur chaque étape du Giro. Le mec, il décale sa rentrée. Il dit, je vais peut-être pas faire le Dauphiné, je serai au Tour de Suisse. C'est 4 jours après. C'est 4 jours après. Le simple fait, et Marie m'a aidé à rebondir, qu'ils disent, j'espère être au départ. Non mais mec, s'il dit ça, c'est qu'il y sera et il sera prêt. Il va pas y aller pour compter les points. C'est pas possible. Un mec comme ça, s'il y va, c'est qu'il est sûr de son
point. Mais l'objectif de la Visma, c'est donc de brouiller les pistes?
L'objectif de la Visma, c'est qu'il se remette tranquillement et qu'on ne casse pas les moments.
Alors donc, il y aurait des agents secrets qui l'auraient enlevé de l'hôpital au Pays Basque et qui l'auraient emmené secrètement dans une navette spatiale pour le faire atterrir à Eindhoven.
Avec Rafael Nadal.
Je pense il a été pris en main très vite et qu'on a communiqué à partir du moment où on savait qu'il allait être prêt pour le Tour. Donc là... Je te dis pas qu'il a été pris par des agents secrets. Je t'ai dit qu'il a pas été soigné au Pays-Bas. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose, c'est que je te dis qu'un mec comme ça, quand il commence à parler de retour et qu'il va faire le tour, moins il est suivi. Et j'irai pas plus loin que ça, parce qu'après, je vais encore prendre les foudres. Mieux c'est pour tout le monde. Moins on sait où il est, mieux c'est pour tout le monde.
Bon, écoute,
voilà. Qui veut réagir là?
À part qu'il veut faire une préparation en loose day et qu'on pense pas à lui, comme ça il va arriver et on va pas en faire un favori sur le tour et qu'il est dans oublier, cette position là.
C'est un mec comme Vingegaard, il est au départ, tout le monde se dit Vingegaard, attention à Vingegaard. On va pas dire non, il y a Vingegaard mais il est en miettes là. Non, ça n'existe pas. Il
n'y
a pas de code pour dire qu'il ne sera pas prêt. Par contre, en tout cas, pour laisser faire Vingegaard.
Donc il essaye d'endormir.
Il essaye ouais, de nous
d'endormir,
endormir
la concurrence.
Ok, ouais. Moi je voyais pas le truc comme ça. Je voyais la grosse boîte.
C'est une piste, hein, mais bon, on verra dans cette semaine. Mais
non, mais tu sais, on voit toujours le vélo comme un sport d'endurance et simplement d'endurance. Et en fait, c'est un sport avec un engagement physique extrême, très impressionnant, sans protection. Et les mecs, quand ils se cartouchent, ils se délatent vraiment, ils se font très très mal. Et donc moi, je voyais pas du tout le truc de l'hôpital du complot ou quoi, mais je voyais peut-être l'impact que peut avoir une énorme boîte comme ça sur une saison, et de se dire ben il s'accroche au Tour de France comme un truc pour une moule à son rocher pour se donner un objectif, ouais, pour une raison d'y croire et tout. Ouais, alors peut-être on est béni, oui,
c'est pour ça,
après je te laisse la parole, Sarah. Juste au-delà du complot, c'est pas une vision complotiste, on peut aussi penser que une équipe cycliste, mais une équipe n'importe laquelle et dans n'importe quel sport, ait envie de protéger le côté santé de son coureur,
n'ait pas envie de dévoiler
déjà pour la concurrence, mais aussi pour l'engouement autour de son équipe, n'ait pas envie de dévoiler quelques secrets de vestiaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas juste être complotiste, ils ont aussi le droit de cacher certaines choses pour essayer de préparer leur champion à un objectif suprême.
Au contraire, moi je voyais une déclaration plutôt honnête, genre bah, je reviens, mais je suis pas à 100%, évidemment, ouais, j'imagine bien que quand t'as pas pu faire marcher la pompe pendant tout ce temps,
mais forcément, comme je le disais, c'est mis en ligne cette vidéo par son équipe, donc il y a forcément de la com aussi là-dedans. C'est là où il faut pas être naïf.
C'est que de la com dans le souhait de dire on revient, laissez-nous tranquille, on sera peut-être pas prêt, mais il sera prêt. Il va pas aller au Tour de France en touriste et il sera prêt pour gagner le Tour. S'il va sur le Tour, il sera prêt. Je vous rappelle juste quand même que juste après le Tour de France, il y a la Vuelta. Si on n'est pas sûr d'être remis pour le Tour, un coureur comme ça peut très bien aller s'aligner sur la voie.
Et là, alors, tu penses que lorsqu'on a vu au sol, recroquevillé, en position fétale, pendant des dizaines de minutes, tu penses qu'il bluffait, qu'en fait, qu'il n'avait pas grand-chose?
Non, juste une petite écorchure. Attention, il s'est boité, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, tout le laps de temps entre la chute et la réapparition sur le vélo, en état de rouler sur la route, il y a eu un long temps où on n'a pas trop su ce qu'il faisait. On a suivi,
il est sorti. Pas du tout communiqué.
Pas du tout de communication. Zéro. Il y a même eu un article qui est sorti de la part des parents de Vingegaard. Ils disent, on est inquiet parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de notre fils. Dans quel monde les parents peuvent pas avoir des nouvelles du fils hospitalisé? Moi, ça me paraît étrange. Sur le côté champion, le côté grand coureur, le Visma Lease Bike a beaucoup communiqué sur Wout van Aert. Van Aert, il est tombé, il s'est cassé une clavette, il était remis, il avait le pansement, on a fait des vidéos sur l'entraîneur. Vingegaard, il touche le sol, il y a un mois au Pays Basque, depuis, on ne l'a pas vu. Et là, il refait du vélo sur la route. Il s'est passé des choses avant, hein. Il a fait de l'entraîneur à la maison, il a fait quelques exercices, c'est obligé.
Oui, mais il n'était pas tenu d'en parler, comme il est quand même le principal adversaire, entre guillemets.
Et là, maintenant, il revient et
on vit ce truc comme un...
Justement, je voudrais faire évoluer ce débat sur Pogacar, parce que quand on parle de Vingegaard, on pense à Pogacar, oui. Et lui... Tout va bien pour Pogacar. Il est sur le Giro. Il domine largement les débats. Hier, lors de la 8e étape, il a remporté son 3e succès. Est-ce que Pogacar, dans cette histoire, il fait pas une erreur là aussi, peut-être sportive, mais aussi de com, c'est-à-dire qu'il s'affiche très en forme, non. Il se ménage pas, alors qu'il y a un Tour de France, et même si...
Il se ménage pas, mais t'as l'impression qu'il est tellement au-dessus des autres. Hier, il aurait bien aimé filer la victoire à quelqu'un d'autre hier. Il aurait bien aimé, mais il est tellement
trop vu, quoi. C'est ouais. Ça.
La strat. Attention. Alors, il y a deux sujets. La stratégie de Tadej sur le Giro, c'est au bout de 10 jours, j'ai 6 minutes, 7 minutes d'avance, et les 10 derniers jours, je gère.
Ouais.
Pour pouvoir basculer sur un doublé. Ça, c'était écrit à l'avance. Et attention, il y a toujours quelque chose qu'il faut voir derrière. C'est la concurrence. C'est-à-dire que le deuxième du Tour d'Italie s'appellera certainement Tibéri, Geraint Thomas.
Mais qui a déjà pris un...
C'est pas les immenses champions.
Non, bien sûr,
il y a de la marge pour ça.
Peut-être, il y a de la marge, mais à un moment donné, d'ailleurs, ça fait grincer un peu le peloton qui, en fait, il laisse que les miettes, il laisse même rien.
De son lit d'hôpital où on espère qu'il va vite refaire du vélo, Jonas Vingegaard doit regarder ça avec le sourire et se dire « laisse des cartouches, mon grand ».
Oui, mais j'ai regardé le programme des deux coureurs en début d'année. Pogacar avait prévu d'avoir un programme mais de boulimique, c'est-à-dire qu'il avait prévu, alors que celui de Vingegaard, quoi qu'il arrive, après le Tour du Pays Basque et avant le Tour, il y avait peut-être une ou deux courses. Donc il ne change pas son programme, Pogacar. Il avait prévu ça et il ne le change pas parce que Vingegaard est blessé.
Elle est peut-être là l'erreur, parce que là il y a une chance unique, peut-être, de faire Giro plus Tour de France avec peut-être la France de Vingegaard ou un Vingegaard diminué.
Tu composes avec une équipe.
Ben oui, mais il faut peut-être aussi composer. C'est aussi ça, être malin. En tout cas,
vu la forme affichée de Pogacar, et si on en croit les déclarations, puisque soyons naïfs et je vais vous suivre, Vingegaard sera au départ du Tour pour faire le nombre, Pogacar il va se balader.
RMC, les grandes gueules du sport.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Salut, c'est Jérôme Roten sur RMC.
RMC, Roten sans flamme.
Dès 18h sur RMC, je vous propose un affrontement entre deux légendes. À ma gauche, 1m82, 75 kg, surnommé le boucher, le Marseillais Éric Dimeco. À ma droite, 1m88, 80 kg, surnommé le buteur, le Bordelais Christophe Dugarry. Enfin, presque le buteur.
Faut arrêter de prendre les supporters de foot pour des imbéciles.
Mais non,
c'est pas parce que je leur dis que j'attends des buts. Eux aussi, ils attendent des buts. Tous les gens qui aiment le foot, ils attendent des buts.
Vous pouvez compter sur moi pour être un arbitre honnête et sérieux. Je vous attends tout à l'heure à 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
Le nouveau spectacle de Mesmer, 13 Hertz avec RMC. Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent. Actuellement en tournée partout en France. Infos et réservations sur mesmer.ca. 13 Hertz avec RMC. En ce moment, envoyez roue par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roue et pas argent par exemple ?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC dès que vous entendez.
Envoyez roue par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roue au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport.
De retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. Nous sommes en direct du Mans à l'occasion du Grand Prix MotoGP, la cinquième manche de la saison évidemment. Quand on parle du Mans, quand on parle de MotoGP, on a envie de vibrer avec nos Français Fabio Quartararo et Johan Zarco. Justement, nous accueillons notre prochain invité. Lucho Cecchinello, le boss de l'équipe LCR Honda depuis 1993, team manager de Johan Zarco. Bonjour Lucho.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous autour de la table des spécialistes évidemment. Paul Lafitte, notre commentateur. Justement Paul, rappelle-nous un petit peu le début de saison de Johan Zarco et peut-être ce qu'il a pu faire. Depuis ce week-end, c'est vrai que ça va pas fort depuis le début de la saison pour Johan Zarco.
Non, effectivement, ça va pas fort pour l'ancien double champion du monde de Moto2 qui avait remporté, on se souvient, le premier Grand Prix de sa carrière. C'était en Australie la saison dernière. Et c'est vrai qu'il lutte aujourd'hui en fond de classement, en fond de grille avec une Honda. Et Lucho va nous en parler dans quelques instants, qui est une moto difficile à conduire. Hein, Dixit Marc Marquez, qui était même une moto dangereuse, hein, l'ancien pilote officiel Honda. Et c'est vrai qu'à l'exception d'une 12e place et d'une 15e place, seulement 4 points ou 5 marqués depuis le début de la saison. C'est compliqué, il reste sur 3 abandons en 4 courses et on s'attend à ce qu'il souffre évidemment cet après-midi sur le circuit Bugatti JC.
Lucho, comment ça se passe cette cohabitation depuis quelques mois maintenant avec Johan Zarco qui a changé d'écurie? On sent qu'il a du mal, j'imagine que vous parlez énormément avec lui. Il a même déclaré « j'ai les boules d'être si loin sur le Grand Prix de France », c'est ce qu'il a dit hier.
Oui, on est...
on est dans un moment difficile. Si on regarde l'histoire de Honda, elle a toujours gagné pour plusieurs années dans la MotoGP. Là, c'est vrai que les dernières années, les autres compétiteurs ont fait des progrès énormes. Je pense qu'Honda, ils se sont peut-être un peu trop concentrés sur les projets Formule 1. Ils ont un peu laissé la moto à côté parce que quand même, il avait un pilote très très fort comme Marc Marquez. Après lui, il s'est blessé. Et là, il y a eu une période pendant la pandémie, Marc Marquez s'est blessé, que Honda, ils l'ont attendu avant de dire on y va, on y pousse. Et maintenant, là, finalement, ils sont en train de reconstruire tous les projets MotoGP, la moto, les ingénieurs. Ils sont en train de mettre beaucoup des efforts pour améliorer leur niveau. Et là, malheureusement, on est encore au fond de la classification. Il faut un peu de temps.
Vous êtes tributaire de Honda, c'est-à-dire c'est Honda qui fabrique la moto, vous êtes écurie cliente, c'est-à-dire vous récupérez la moto, vous essayez ensuite de la mettre la plus performante possible, mais vous dépendez complètement de Honda en quelque sorte, Lucho. Donc est-ce que vous leur mettez la pression à un moment, on sait que Honda a hésité de savoir s'ils remettaient des moyens ou s'ils abandonnaient le MotoGP. Vous êtes, j'imagine, au quotidien en train de leur dire fournissez-nous une moto plus performante.
C'est pas vraiment l'attitude qu'on utilise avec surtout les Japonais. On
ne doit pas y aller comme ça. Ouais.
Agressif. Non. On doit être constructif, on doit être propositif. Et là, c'est ce qu'on fait pratiquement tous les jours, et parfois deux, trois fois par jour, parce qu'on a plusieurs rendez-vous avec tous les ingénieurs. On est toujours propositif on fait beaucoup on regarde beaucoup qu'est-ce qu'ils font les autres compétiteurs, on ramène des idées, on met sur la table beaucoup de choses. Hier soir, par exemple, on a fait un rendez-vous jusqu'à 21h avec les ingénieurs, les project leaders, les nouveaux project leaders. Il est très ouvert et très attentif, il est très content de recevoir notre avis. Là, par contre, travailler avec les Japonais, c'est un peu différent. Là, avec comparer la mentalité européenne, eux, ils sont très très calmes. Ils analysent beaucoup avant de faire un petit pas. Il prend son temps, il réfléchit beaucoup. Donc là,
c'est pas tellement à l'italienne, ça doit être compliqué pour vous quand même. Hein, c'est plus facile de bosser avec Ducati, par exemple.
J'adorerais voir les discussions entre les Italiens et les Japonais. Ça doit être sympa.
Je rappelle que vous êtes le team manager de Johann Zarco. Vous le savez mieux que nous. D'ailleurs, Johann Zarco est très populaire ici au Mans. Nous sommes au Grand Prix de France. Quand il a signé chez vous, quand vous avez réussi à attirer Johann Zarco, est-ce qu'il savait, pardonnez-moi cette expression, je ne connais pas la traduction en italien, où il mettait les pieds? Est-ce qu'il savait que ce serait compliqué?
Non, mais il savait, absolument, et je pense que quand les leviers que nous, on a utilisés pour convaincre Johann à venir chez nous, c'était vraiment un projet de 2 ans plus une option pour la troisième année, mais avec aussi une possibilité de continuer notre collaboration pour une période plus longue. Lui, donc, il a vu qu'il avait une possibilité de prolonger sa carrière et donner une contribution à Honda, être un des éléments importants pour ramener Honda au top, mais il savait quand même que c'est pas forcément quelque chose de 2-3 mois. On vient de commencer les championnats.
Oui, il savait que ce serait difficile. Jérôme Pinault.
Moi, j'ai la question au manager de l'homme. On sait que par définition, il est pilote, donc il aime aller très vite. Est-ce que là, on voit les déclarations, ok, il savait, ok, il était au courant de tout ça, d'un projet sur le long terme. A priori, il est quand même surpris d'être si loin. Comment on manage, comment on parle à Zarco aujourd'hui pour lui dire sois patient, alors que par définition, c'est pas du tout la qualité première d'un pilote. On a envie d'aller très vite tout le temps et de gagner. Ce sont des gagneurs. Comment on arrive à lui expliquer que les petites améliorations, où va-t-il chercher son plaisir? C'est ça ma question.
C'est pas simple, c'est absolument pas simple, mais qu'est-ce qu'on fait toujours, qu'est-ce que j'essaie de faire toujours avec lui, avec mes collaborateurs? J'ai dit, avant, on doit toujours avoir une vision globale. La vision globale, c'est qu'on est en train de travailler avec les premiers constructeurs au monde de moto. Ils ont plein de ressources économiques et technologiques. Donc, c'est une question de temps. Et deuxième chose, comme j'ai dit hier à lui, avant la session chrono, je lui ai dit, écoute, ok, arrête de penser maintenant à la moto, que la moto n'est pas compétitive. Je veux que tu rentres dans les stands après les qualifs avec tout l'esprit d'être orgueilleux d'avoir donné les maxis et d'avoir extrait tout le potentiel de la moto. Et je veux que tu es content avec toi-même. Pour moi, ça, c'est l'important. Mm-hmm. La première chose, je veux que tu saves que tu as fait ton maxi et que plus de comme ça, tu ne peux pas le faire. Et quand tu es le premier pilote de Honda, c'est déjà un premier point positif pour repartir.
Mm. Lucio Cecchinello, le boss de l'équipe LCR Honda depuis 1993, c'est dire si vous connaissez parfaitement cette écurie. Team manager de Johann Zarco est avec nous dans les grandes gueules du sport. Paul Lafitte.
Lucio, on sait que Johann Zarco avait quitté avec pertes et fracas l'équipe KTM en tant que pilote officiel, avait d'ailleurs fait quelques piges au sein du team LCR. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, on l'a compris, un projet à moyen, voire à long terme, un petit peu comme d'ailleurs Fabio Quartararo chez Yamaha, est-ce que vous pouvez lui garantir, si ce n'est pas cette année, que l'année prochaine, la Honda sera quand même plus performante pour un double champion du monde de Moto2 qui a gagné en MotoGP.
Bon, garantir, c'est toujours difficile parce que, comme vous savez, c'est pas vraiment dans mes mains tous les projets. Je pas quand même, je suis pas un magicien, mais de notre côté, sûrement, il y a l'implication au top de Honda. Parce que je sais bien qu'au niveau de direction générale, c'est devenu un des objectifs principaux, ramener Honda une autre fois dans les top positions de la MotoGP.
Ça, c'est la décision prise par Honda. Ça y est, la position est prise. On veut remettre des moyens pour redevenir top niveau mondial.
100%.
C'est une bonne nouvelle pour nous.
Marie et Christophe, rapidement.
Alors, moi, je viens du ski, et dans le ski, le matériel est évidemment hyper important. Et en fait, la notion de plaisir passe par le fait d'avoir du matériel performant. Moi, je m'inquiète un petit peu de comment vous pouvez manager Johann Zarco, qui est un. Enfin, Jean-Michel Ball était passé nous voir il y a 2 ans et nous avait dit c'est un prodige, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, un supplément d'âme. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il perde patience par le fait de ne pas avoir de plaisir sur la moto comme elle n'est pas performante et de perdre cette notion-là plus que la performance et l'orgueil?
Je veux être honnête, oui. Oui, j'ai peur, mais ça c'est partie de notre mission, de notre travail. Il faut que on essaie de toujours de garder la positivité et on essaie de, quand il y a des moments difficiles comme on est en train d'avoir maintenant, il faut que toujours on lui donne des plans à court terme. Et ça, ça c'est très positif pour garder quand même la motivation.
Le garder dessus.
Lucio,
dernière question.
Italien, vous travaillez avec les Japonais. C'est quoi le vrai pays de la moto aujourd'hui? Le premier pays au monde de la moto. Ça reste encore les constructeurs japonais. On a vu Honda, Yamaha. Oui, l'Espagne, ils sont pas mal avec les pilotes. Ou alors l'Italie avec ses Ducati.
Je pense que les centres de développement de motos de compétition, c'est en train de devenir l'Europe, en particulier l'Italie. Je pense que ça, entre l'Italie, l'Allemagne, disons l'Italie, l'Autriche, il y a vraiment, il s'est en train de créer une hub comme la Formule 1, c'est Angleterre.
En Angleterre,
et là, MotoGP, je pense que oui, c'est en train de devenir de plus en plus en Europe.
Vous savez qu'on a besoin de pilotes français pour que ça prenne vraiment en France, même s'il y a 300 000 personnes aujourd'hui, mais c'est un peu retombé quand même avec les performances de Fabio et de Johan qui sont un peu en deçà de ce qu'elles étaient il y a 2 ans.
Moi, je suis complètement surprise, je vous dis la vérité, c'est incroyable l'affection du public, les soutiens du public. Et bon, moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Les gens, ils sont très supportifs. J'ai pas encore vu quelqu'un qui l'a dit à Johan, tu as mal fait à prendre cette. Et là, tout le monde me remercie et il nous donne de
l'énergie,
de l'énergie positive
et de la force. Lucio Cecchinello, merci pour votre sincérité d'être venu nous voir, oui. Répondre à des questions pas forcément faciles
et
parce
courageux.
Que votre équipe n'est pas dans une position facile, mais vous avez tenu à venir vivre et à venir être ici en direct avec nous. Donc merci beaucoup pour ça et on vous souhaite une très belle course.
Merci à vous.
RMC, les grandes gueules du sport. Toute la semaine, dès 15h sur RMC. Retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff, RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Arrête de vivre dans la peur.
Il monte, sur la ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il enchaîne sa raquette, il ne croit pas ses yeux. Rafa Nadal.
Il prend la décision aujourd'hui de vivre dans la joie.
Elle est dedans. Et c'est un ace. Oh le mec, il est pas allongé, il est à genoux.
À quoi bon une existence où on vit constamment dans la peur?
Rafa Nadal.
Pourquoi pas prendre la décision de vivre, de bien sentir, de rayonner.
La dixième, la décima,
absolument insolito.
C'est gagné, c'est incroyable.
Petite extinction de voix.
Ahí la tienes, ahí la tienes. Rafa Nadal al suelo. Bien, Roland Garros.
C'est le plus grand terrien de tous les temps. J'ai jamais vu ça, je crois. Incroyable. Quel immense champion, Rafael Nadal.
Heureusement qu'on a Eric Salio hein, sur RMC, on va le retrouver dans quelques instants. À deux semaines de Roland-Garros, Rafael Nadal veut désormais prendre des risques, pousser la machine à fond. Le champion espagnol, éliminé sèchement hier au deuxième tour du tournoi de Rome, aimerait se débarrasser de cette peur de la rechute, lui qui tente de retrouver son meilleur niveau depuis 2 ans, quitte à mettre son comeback en péril. Si ça casse, ça casse. La musique qui fout les jetons et cette question. Ne plus avoir peur de la rechute, est-ce impossible? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Impossible.
Marie Martineau?
Dans son cas, je pense que c'est impossible.
Sarah Pitkowski?
J'ai pas compris.
Voilà, j'en étais sûr. Les questions négatives, tu n'y arrives pas.
C'est impossible qu'il ait pas peur.
Oui.
Donc je réponds quoi?
Ben oui ou non.
Oui, tu savais dire oui.
Oui, alors.
Elle est dans notre team. Je
suis perdue.
À chaque fois, tu me fais le coup. Hein. Je vais arrêter les questions négatives avec toi.
Je l'ai lu hier.
J'adore ça.
Non, c'est impossible qu'il ait
pas peur.
Voilà.
C'est clair. Jérôme Pinault.
Non. Moi, je pense que ça peut
non,
arriver.
À quoi
ça peut arriver. Bah, il peut se débarrasser de ça. Parfait.
Exactement.
Eh ben, tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants.
Quand c'est Nadal, tout est possible.
Avant de débattre, on va retrouver donc notre spécialiste tennis qui n'a pas d'extinction de voix aujourd'hui. Eric, salut. Salut Eric.
Salut les grandes gueules sartoises.
Hello.
Alors, où en est exactement Rafael Nadal après ce tournoi de Rome et juste avant Roland Garros?
Écoute, après un tournoi de Madrid encourageant, Rafael Nadal souhaitait confirmer ses progrès notables à Rome, un endroit magique où il a triomphé 10 fois. Mais après un premier tour laborieux face au Belge Zizou Bergs, il a très vite cerné ce qui lui manquait encore.
I have Roland Garros in 2 weeks and a half. Arrive a moment that I need to prove myself if I am able to push my body the limit that I need to.
J'ai Roland Garros dans 2 semaines et demie. C'est le moment de me prouver que je suis capable de pousser mon corps jusqu'à la limite nécessaire pour me sentir prêt pour ce qui arrive. Je dois perdre cette peur, je dois prendre ce risque. C'est le moment pour ça. Si quelque chose se passe de mal, on va l'accepter. C'est le moment de pousser et je me sens plus prêt pour ça que d'habitude.
Malheureusement, hier, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu face à Hubert Hurkacz. Malgré vraiment une belle première demi-heure, il a piqué du nez pour encaisser un implacable et inhabituel 6-1-6-3. En conférence de presse, la question sur son éventuelle participation à Roland-Garros, évidemment, elle est très vite venue sur la table.
You can see today on the court how difficult it is.
Vous pouvez voir aujourd'hui sur le terrain à quel point c'est difficile, effectivement. Maintenant, il y a 2 voies possibles. L'une d'elles serait probablement de dire « Ok, je ne suis pas prêt, je ne joue pas assez bien ». C'est alors le moment de prendre la décision de ne pas jouer à Roland-Garros. Une autre est d'accepter comment je suis aujourd'hui et de travailler de la bonne manière pour essayer d'être mieux dans 2 semaines. La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, si mon esprit penche plus d'un côté que de l'autre, je dirais être à Roland-Garros et faire de mon mieux.
Vous l'entendez, il apparaît résigné, il sait qu'il n'a pas un 15e Roland dans les jambes, mais la marque d'amour qu'il a reçue de la part d'une marée humaine de tifosi lorsqu'il a traversé la passerelle menant du central à la zone des joueurs va sûrement influencer sa décision. Il mérite de fouler une dernière fois le tapis ocre du central Philippe Chatrier où il a écrit l'une des plus belles légendes du sport mondial.
Merci Eric Salio. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rafael Nadal. Vous l'avez entendu en longueur. Eric, tu peux rester avec nous sur ce débat. Nadal ne veut plus avoir peur de la rechute. Est-ce impossible? Évidemment, nous parlerons aussi de ce tournoi de Roland-Garros et de ce qu'il vient de déclarer hier. Christophe Cessieux.
Oui, parce que là, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il est impossible pour Rafa d'avoir peur d'être ridicule à Roland-Garros? J'ai l'impression que c'est surtout ça, sa peur principale aujourd'hui, quand tu l'entends dans ses déclats qu'il a fait à Rome hier. Il a pris une...
Il comprend que le pari semble difficile.
Il comprend qu'il ne pourra pas gagner Roland-Garros. Il comprend qu'a priori, il peut aller sur le central pour jouer un match ou deux. Mais
est-ce qu'il est prêt à subir ça?
Est-ce qu'il est prêt à subir une humiliation sur la terre qu'il a sacré roi pendant 14 ans? C'est, j'ai l'impression que c'est ça sa principale difficulté aujourd'hui. La peur de la blessure, est, évidemment, qu'elle est présente parce que quand tu...
Non, mais pour lui, c'est la condition sine qua non pour gagner. C'est-à-dire qu'il dit, il le dit en conférence de presse, il faut que je n'ai plus peur, il faut que je me débarrasse de ça.
C'est ce qu'il se raconte, hein, j'y sais. C'est lui qui se raconte ça. Hein. En fait, on a eu souvent ce débat hein, de savoir quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut arrêter. Et Nadal, je pense qu'il a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin et que là, il se retrouve face à son choix d'avoir voulu encore faire une saison. Et c'est certainement la saison de trop. Et c'est, je pense que ça doit être terrible pour lui. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est impossible de ne pas avoir peur? Tu bosses en prep mental, tous les athlètes le font, mais dans une construction depuis le début de ta carrière à justement ne pas avoir ce genre de pensée. Qui sont des pensées parasites. Mais Nadal, il n'a que gagné. Il n'a fait que ça. Le plus grand terrien de tous les temps, disait Eric dans un de ses commentaires. Donc, il n'a connu que la réussite, le sommet. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait jamais de peur.
Il y a eu quand même 34 blessures en 22 ans, quand même. Donc,
ça
peut faire un peu douter, quand même, Marie.
Je ne crois pas que ça l'ait fait douter. En tout cas, ça n'a pas vraiment impacté
les dernières années, un peu, quand même. Hein, les dernières années.
Mais là, réussir à traiter ça mentalement. Et s'absoudre de cette trouille-là de ne pas vivre ce qu'il aurait aimé vivre comme un dernier Roland-Garros, un dernier adieu dans les meilleures conditions, ça me paraît juste impossible, même si pour le coup j'accompagne des athlètes en leur disant que tout est possible mentalement, et c'est bien sûr qu'il faut y croire, mais là on est dans une configuration avec Nadal très 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 particulière.
Jérôme Pinot.
Moi, j'ai répondu oui à cette question parce que je pense que justement, la clé de son plaisir ultime sur le court, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour lui, c'est d'aller à Roland. L'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure avec Vingegaard, il sait qu'il va y aller pour faire de la figuration, mais il a envie de kiffer une dernière fois, avec le public notamment. La clé, c'est peut-être aussi, Marie, je sais pas ce que tu en penses, c'est de se dire j'y vais à bloc et tant pis si ça pète. De toute façon, ça pète, c'est fini.
Il est déjà pété, en fait. C'est là où il se raconte une histoire. C'est ce que je te disais. Il est déjà pété.
Et après, il y a où se situe le seuil de douleur. Jusqu'où suis-je capable d'accepter d'avoir mal pour jouer? Est-ce que le plaisir est supérieur à la douleur que je ressens? Et s'il arrive à passer outre ça, il peut encore se faire plaisir sur un court. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de Nadal? C'est juste faire plaisir aux gens de venir le voir une dernière fois. Lui, la légende, parce que lui, c'est le plus grand de tous les temps. Sur la terre à Roland, c'est aussi ça, redonner un peu. On sent que le mec, il a quand même envie d'y aller. Sur la fin de l'interview, il dit aujourd'hui, je pense plus du côté où je vais aller parce qu'il sait qu'il va.
Oui, mais il a du mal à se dire que c'est pour faire un tour ou deux tours.
Et moi, j'ai envie de dire, mais on s'en tape, mec, t'as gagné 14 fois.
Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, justement?
Moi, je lui conseillerais d'y aller.
D'y aller ou alors d'arriver, justement, en disant les gars, je suis désolé, je suis pas au niveau.
Mais il
fera mieux
d'y aller.
Et je viens me faire fêter par le public de Roland.
Mais Christophe, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit je ne suis pas à 100%. Il le déclare encore hier. J'ai des petits soucis.
Mais est-ce que tu as envie de le voir perdre?
C'est pas
ça, 6-0, 6-2, 6-3, dans un premier tour.
Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Mais on va juste revenir. Quand il décide, donc,
On est en janvier 2024. Il décide de revenir. Il a eu cette blessure au psoas où il s'est fait opérer. Là, on parle d'un tendon. Il revient en janvier, il se répète sur le même tendon.
Ah, je crois que c'était pas tout à fait au même endroit.
En fait, c'est musculaire. Il y a le tendon et le muscle derrière est déchiré.
Il est cassé de partout.
Très bien. Mais en fait, il fait ce travail et il revient. Il a repoussé un peu sa reprise. Il revient et je pense que le premier match, il sait qu'il est dans les sensations, qu'il cherche des sensations. Et puis, il y a ce bon tournoi à Madrid où il gagne trois matchs. Mais le problème, c'est que le troisième match, il gagne en 3-7 et il doit rejouer 24 heures après. Et là,
c'est pas possible.
Il ne peut plus. Mmh. Il ne peut pas physiquement. Et ce qui se passe
hier, début de match, il s'accroche.
27 minutes. Ouais, trois jeux, 27 minutes après. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Mmh. Et en fait, c'est là que je pense qu'il est en train de prendre conscience. Nadal est un joueur en souffrance, c'est-à-dire qu'il joue dans l'intensité, dans le mal. Je pense qu'il n'y a pas sur la planète quelqu'un qui sait plus se faire mal que lui quand il joue au tennis. Et là, je pense qu'il essaye, son cerveau doit essayer de demander à son corps
de le suivre,
de le suivre et que ça ne suit pas. Ouais, il est loin derrière la ligne, il frappe, les balles ne font plus mal, il n'arrive plus à avancer. Et donc, en fait, il y a un décalage entre sa tête qui voudrait... donner un ordre à son corps, mais son corps ne réagit plus. Et je pense que les propos qu'il dit hier, malheureusement, il est en train de se résigner, de dire si je vais à Roland-Garros, ça dépend du tirage. Il est capable de gagner un match, mais il peut pas enchaîner deux matchs en 5-7. C'est pas possible.
Pour en revenir à ce que
dit Christophe, donc il y a une forme de résignation qui est en train de naître.
Sur la perf, oui. En revanche, sur le moi qui suis pas un grand passionné de tennis, mais qui suis notamment les stars. Je kifferais, pour le coup, le voir aller même perdre sur un cours central, un beau cours plein. Et le voir partir comme ça, plutôt que de faire une conférence de presse.
Mais non, pas une conférence de presse, mais de le voir rentrer sur le central avec
mais
un central plein,
qu'il applaudit.
Il prend les deux.
Oui, mais on a quand même envie de le voir jouer.
Ce sera le cas.
Non, j'ai pas envie de le voir perdre, lamentablement.
Non, mais de manière, c'est
gros. T'es pas un amoureux des champions.
Tu sais quoi? De toute manière, il a son anniversaire.
Je suis trop amoureux des champions pour les voir dans leur déchirure.
Il a son anniversaire chaque année à Roland-Garros.
C'était terrible, ton dernier Tour de France, par exemple. Tu vois, j'ai souffert.
Mais tu vois, j'y ai repensé. C'est vrai qu'au pied du dernier col, j'avais envie d'aller plus vite que les autres, j'y arrivais pas.
Ton corps ne répondait pas à ta tête.
Corps, il n'a jamais répondu à ma tête.
Eric Salio qui est toujours avec nous. Eric, quand on entend sa dernière déclaration après cette défaite hier au deuxième tour du tournoi de Rome, il a envie d'y aller, mais on sent que c'est difficile. Et Sarah le disait, peut-être qu'il est en train de prendre conscience qu'il va pas réussir le challenge.
Non, mais ça c'est. Je pense que maintenant on est tous préparés. Il l'a pas dans les jambes. Maintenant, dans votre débat, il y a une question importante. Peut-il tout donner? Il y a une donnée qui est très importante, c'est qu'il y a les jeux derrière. Si vraiment il va au bout de son processus et qu'il lâche tout et qu'il se casse pour de bon, il se prive des jeux. Il se prive des jeux. Et hier, j'ai écouté la conférence de presse, il y a une question qui est revenue, qui revient sans cesse, c'est le fantasme du double Alcaraz-Nadal. Donc tu vois, il a ça dans un coin de sa tête. Il dit, ouais, mais si je me casse et si je me
ça
pète...
Ça ferait une beaucoup plus belle sortie, peut-être. Hein.
J'annule mes chances pour les Jeux à Paris, parce qu'il y a une vraie chance de médaille, pourquoi pas en double. Donc il a le cul entre deux chaises, quoi, voilà, une fois de plus.
Moi je ne l'avais pas,
c'est ça la contradiction, et c'est aussi pour ça qu'on vous proposait ce débat ce matin, parce que j'ai vu après son premier tour qu'il avait déclaré, si ça casse, ça casse. Mais il n'est pas que sur Roland.
Ah, je reviens sur ce que j'ai dit. Clair que j'avais pas le côté double, notamment avec Alcaraz éventuellement. Et pour les jeux, évidemment, là, tu peux plus y aller.
Est-ce qu'il peut se permettre de casser? Donc, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible pour lui de se dire, j'ai pas peur de la
réussite? De toute façon, il va bien falloir qu'il joue avant d'aller faire les jeux.
Oui, mais alors, en double, c'est quand même moins sollicitant, Sarah.
Mais bien sûr.
En double, à deux, c'est en 2-7 gagnants, c'est ça le tournoi?
Oui, puis il y a le côté passation de flambeau.
Ouais, l'image très symbolique avec Alcaraz, il rêve que d'une chose.
Oui, enfin, l'image, il s'en fiche, c'est d'aller chercher une médaille.
Ah, tu crois pas que l'image quand même de faire un beau départ, c'est quand même surtout que les autres ont bien réussi. Enfin, en tout cas,
c'est d'aller chercher une médaille. S'il le fait avec Alcaraz en double, c'est parce que en fait, comme tu dois jouer avec un, enfin, c'est pas la même chose du circuit de double à l'année où tu joues finalement avec le partenaire avec lequel tu es habitué. Là, tu dois jouer avec un compatriote. Mais des fois, l'entente, elle se fait pas. Donc, il y a plus de chances effectivement d'avoir une ouverture s'il est en état physique de jouer avec Alcaraz et d'aller chercher une médaille. Je crois
mais donc, en sachant ça, il ne peut pas dire comme il a dit en conférence de presse, maintenant c'est le temps de me libérer, je dois plus penser à la rechute.
Mais là, il est en guerre avec son corps.
Je pense qu'il est en guerre avec
son corps et censé être son meilleur pote parce qu'il est dedans et c'est son corps qui lui permet de développer son tennis et ce qu'il aime faire plus que tout au monde. Donc c'est un paradoxe qui est terrible. Oh, il doit vraiment pas être bien. Et
sans compter qu'il doit vivre avec la douleur.
Et en plus avoir le mal qui est un enfer. Enfin, ça doit vraiment être terrible ce qu'il est en train de traverser.
JB est avec nous au 32-16. Salut JB.
Salut à tous, comment ça va? Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tout le monde d'accord.
Écoute, on t'écoute, JB, c'est Jean-Baptiste, c'est Jean-Benoît, okay,
c'est Jean-Bernard.
C'est
Jean-Bernard. Ouais, Jean-Bernard. J'étais intervenu l'année dernière à la finale, dans les Grandes Gueules d'ailleurs, juste avant la finale de Roland. Et en fait, moi, mon avis, c'est que je suis plus du côté de Marie. Depuis longtemps, je pense que... Salut Sarah, je sais que Sarah est là et Sarah, on se connaît. Donc, je suis plus d'avis à vous dire que... Ouais, on se connaît parce que je suis dans le tennis. Je suis plus dans le tennis depuis un an parce que j'ai fait une opération de la hanche. Bref. Et donc,
Jean-Bernard, ça se resitue normalement.
Bien sûr.
Jean-Bernard, on n'aurait pas 50 des amis qui s'appellent Jean-Bernard.
Oui.
Vas-y, JB.
Donc, à l'époque, je me disais, moi, que Rafa, il fallait qu'il tire sa révérence depuis un bon moment. Et comme vous dites tous, il a du mal à se dire que je vais arrêter comme ça. Donc, Sampras l'a fait en 2002, après sa victoire à l'US Open. C'était très dur pour Sampras de revenir. Roger, il a surpris tout le monde, mais il s'est dit, son corps ne veut plus. Bah, j'arrête. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Et en fait, Rafa, c'est son problème, c'est que c'est tellement un mec qui gagne dans sa tête que le fait d'arriver sur le court et se dire, je peux pas partir comme ça. Et donc là, il pousse les échéances. Et vous en avez parlé, les jeux dans sa tête, il a tout plein de projets en même temps, des projets qui sont très éloignés. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, Rafa? T'arrêtes, tu continues. J'en suis sûr qu'avec son équipe, ça doit être un casse-tête chinois. Et en plus, il doit avoir tout le monde qui arrête aussi, des gens un peu de sa génération. Del Potro a arrêté, Dominic Thiem a arrêté, Schwarzman arrête, Raonic il va pas tarder, Murray je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, à un moment on se dit qu'il doit se dire lui aussi dans sa tête, je continue, je vais jusqu'au bout. Et je pense que vous avez tous raison, là où vous avez tous raison, les jeux, il est en train de se dire derrière il y a les jeux, qu'est-ce que je fais, comme dit Sarah, ouais, est-ce que je vais aller jusqu'au jeu, si je me pète c'est dead, je ne peux pas pouvoir aller jusqu'au jeu. Et c'est vrai que le challenge, il est compliqué. Voir Rafa quitter Roland comme ça, sur le central, moi j'étais fan de Roger, hein. J'ai vu toutes les finales, j'étais dû en bas, j'ai vu toutes les finales contre Roger, où Rafa est régné sur Roland. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir comme ça, tête basse?
Oui, mais peut-être, mais la fête sera quand même monumentale. Et quand même, on a quand même envie de voir cette image, j'ai envie de voir ce grand champion.
Il n'était pas là l'année dernière à Roland-Garros, on a besoin de le voir.
Oui.
Je pense que lui a besoin de faire ses adieux, mais le public français a aussi besoin, et l'organisation a besoin aussi de lui
pour
faire...
Pour tourner la page.
Exactement, pour lui faire des adieux. Et en ça, j'ai envie de dire que le résultat sera anecdotique.
C'est pas pareil, un adieu, comme le dit Christophe, en civil, venir sur le central à 5 minutes avant la finale et dire au revoir, que... En tant que joueur, c'est pas du tout la même chose. Et pour compléter ce que dit JB, il faut pas oublier que c'est un sportif de très 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 haut niveau.
Et il pense pas comme tout le monde.
Et il n'est pas comme tout le monde. Oui. Voilà. Donc c'est un garçon qui.
Là, il le paye cher d'avoir pas été comme tout le monde.
Oui, mais là, Marie, pour le coup, tu sais très bien, il a pas décidé encore. Oui, mais il a pas eu ce fameux truc au moment où tu te dis ouais stop c'est fini.
Bah ouais.
Et ça viendra, mais il l'a pas eu encore. Et donc là, il lutte avec des choses. Contre lesquels il sait très bien qu'il ne peut pas lutter. Il sait très bien aussi, dans un autre côté, qu'il n'aura plus jamais l'opportunité d'être au niveau, d'avoir le top niveau qu'il a connu, mais il faut ce moment
où tu lâches. Oui, mais quelque part, crois toujours un peu.
C'est ce qui différencie toi avec nous, Christophe, c'est le sport de haut niveau.
Je crois encore que je peux prendre la place de Gilles.
Non, il est champion du monde d'entrecôte avec des pommes grises.
Moi, je l'ai vu.
Je suis imbattable.
Ça veut dire qu'il n'est pas prêt d'être battu.
Allez, il est 11h25. Dans deux semaines, c'est Roland Garros et avec toute notre Dream Team, Sarah Pilkowski.
Les gaffes, pas de faire enlever par les
Marion Bartoli, Julien Beneteau, nous suivrons évidemment cette quinzaine. Merci Eric Salio d'avoir été avec nous. Eric Salio qui sera aux commentaires durant la quinzaine. Porte d'Auteuil, à bientôt sur RMC, à très vite. Et toutes les dernières informations sur le tennis, sur Rafael Nadal, c'est à retrouver sur rmcsport.fr.
RMC, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
à 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre, réagir sur l'émotion, à une actualité forte, tout de même. Je ne sais pas si ça va vous plaire, je vous le disais il y a quelques instants.
Ouais, c'est encore du Mbappé ça.
Mais je pense que ça peut faire un bon débat. Le débat caché, le guet-apens du jour, c'est ça.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va ?
Question suivante.
Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis.
Qu'est-ce que tu sous-entends ?
À savoir que vous alliez quitter le PSG.
Impossible.
Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian.
Hey, il n'y a pas de tension, hein. Tranquille.
J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club.